Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Publié en 1970 aux presses universitaires de Bretagne, le livre de Michel Philipponneau, Debout Bretagne, reste une étape essentielle dans la construction de la Bretagne d'aujourd'hui. Cet ouvrage composite, fruit d'un combat de 20 ans, est à la fois un pamphlet, un manifeste et le partage d'une analyse politique, économique, géographique et prospective. Le défi breton, pages 508 à 510, extrait. Si je propose aux jeunes bretons d'engager le combat pour que vive la Bretagne, ce n'est pas pour expérimenter dans le cadre d'une région les concepts théoriques d'une doctrine politique. Je ne suis pas un doctrinaire, mais un géographe qui a voulu mettre l'expérience acquise dans son métier au service de sa région, qui s'est engagé politiquement parce qu'il fallait bien montrer l'exemple. Si je suis devenu socialiste, c'est qu'en me battant sur les problèmes très concrets du développement régional, un système socialiste m'est apparu mieux que tout autre, susceptible d'aider à résoudre ces problèmes. C'est aux jeunes qu'il appartient aujourd'hui, à leur tour, de s'engager, et je me réjouirais de les voir eux-mêmes chercher, découvrir et appliquer un autre modèle de développement à condition qu'il soit efficace et réalisable. Mais je crains qu'avec leur fougue, leur idéalisme, leur goût de l'absolu apanage de leur âge, ils ne s'engagent dans des impasses, et celles-ci sont nombreuses, sans même évoquer davantage la voie sans issue gaulo-pompidolienne. Impasse d'une solution nationaliste bretonne, s'intégrant à un mouvement panceltique. L'expérience montre qu'il ne serait pas aisé de réaliser un front uni des Bretons, oubliant des divergences idéologiques, pour imposer un statut particulier à leur pays, statut qui ne résoudrait pas, comme par miracle, les problèmes essentiels qui sont d'ordre économique. Les responsables d'un parti breton comme l'UDB, dont je partage comme socialiste beaucoup d'options, reconnaissent qu'il faudrait 10 à 20 ans pour que leur parti puisse seulement acquérir une force comparable à celle des partis gallois et écossais qui ne sont pas encore majoritaires. Combien restera-t-il alors de jeunes bretons décidés à se battre si ceux d'aujourd'hui se complaisent dans des rêves à long terme sans s'associer à des actions immédiates mais préparant l'avenir? Impasse tout autant d'une solution violente liée à une révolution universelle s'inspirant de la Chine ou de Cuba. Quelques-uns de mes étudiants, et parmi les meilleurs, lorsqu'ils ne s'abandonnent pas au verbalisme, retenant que la Bretagne présente tous les caractères d'un pays soumis aux formes diverses du néocolonialisme, inciteraient volontiers les masses à la révolte ouverte contre ceux qui les exploitent. Ils oublieraient ainsi que la Bretagne s'intègre à un ensemble européen, en passe d'atteindre le stade de la civilisation post-industrielle à laquelle aspirent les Bretons, comme tous les Européens. L'image d'une subversion violente soigneusement entretenue par les ministres bretons de l'Intérieur et de la Justice constitue l'arme essentielle des conservateurs qui se satisfont d'être les seuls bénéficiaires de la société de consommation. Impasse également d'une solution dite apolitique à laquelle voudraient encore croire certains animateurs d'un CELIB, comité d'études et de liaison des intérêts bretons, un CELIB rénové, retrouvant sa vocation première de syndicat régional, de groupe de pression des forces vives de la région près des pouvoirs publics. L'élimination récente de l'homme qui a mis le CELIB au service du pouvoir ne constitue pas la garantie suffisante d'un changement de cap débouchant sur la contestation. Au printemps 1970, René Pleven n'a pas été réélu présidente à l'unanimité selon une tradition vieille de 20 ans. Mais tant qu'il conservera cette présidence, comment pourrait-il admettre que le célib puisse contester le pouvoir auquel il appartient ? Comment les conseils généraux, peuplés d'hommes dévoués au régime, pourraient-ils tolérer que les crédits qu'ils attribuent au célib servent à alimenter des critiques anti-gouvernementales ? Les techniciens, les syndicalistes, certains représentants des forces économiques me semblent entretenir à cet égard de dangereuses illusions. Le patronat, avec l'appui du pouvoir, prend néanmoins ses distances et revendique la mise au point par les chambres économiques d'un plan à long terme d'aménagement de l'espace breton. Les représentants des travailleurs et des comités locaux ne saurait sans doute être associé à l'élaboration d'un tel programme qui doit bénéficier d'un crédit de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR. Impasse, enfin, d'une solution politique classique passant par une union de la gauche qui serait en fait, en Bretagne, à dominante communiste. La gauche socialiste, par suite de l'accident historique qui a provoqué une forte implantation du PSU dans les Côtes du Nord et une partie du Finistère, est encore plus faible et plus divisée qu'à l'échelle nationale. Le Parti communiste, attaché au vieux cliché des autonomistes bretons, demeure hostile à la régionalisation à laquelle sont acquis les socialistes, bien que le PCF paraisse amorcer une évolution, notamment dans le Finistère où il organise même des fest-noz. Bien d'autres obstacles s'opposent à une union de la gauche, en particulier la signification que le PCF attache au mot « démocratie ». Mais en Bretagne, des conceptions profondément différentes sur un problème aussi important que la régionalisation constituent un obstacle supplémentaire. Si toutes ces voies se terminent en impasse pour redresser la Bretagne, il faut chercher une voie nouvelle, marquée seulement par trois impératifs qui peuvent constituer trois étapes: une régionalisation authentique et démocratique, une politique économique de caractère socialiste, la constitution d'une Europe qui ne serait pas celle des affaires, mais celle des peuples et des régions.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.